Europe 1. Il est 8h17 et ce matin, vous recevez Bernard Poirette, le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, Christophe Prudhomme.
Monsieur Prudhomme, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Au dernier pointage, 240 services hospitaliers en France d'urgence sont en grève sur 474. C'est exactement la moitié. Donc le mouvement a commencé au mois de mars. Il s'étend, il ne faiblit pas, il a molli un petit peu au cours de l'été, mais il repart maintenant. Quel est le fond du problème, monsieur? Est-ce un problème de moyens? C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de matériel, il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez de locaux? Ou est-ce le problème général de la médecine publique en France qui fait que les gens ne peuvent plus trouver un médecin de quartier rapidement et facilement et donc vont aux urgences en désespoir de cause? Ou c'est les deux?
Non, c'est les deux, mais c'est chronique d'une catastrophe annoncée. Vous savez, quand nous avions rencontré avec Patrick Peloux, le ministre de la Santé de l'époque en 2002, Jean-François Mattei, nous lui avions dit que s'il supprimait l'obligation de la garde des médecins en ville,
oui,
nous aurions une explosion du nombre de passages aux urgences.
Il l'a fait.
12 millions de passages aux urgences en 2002. On va terminer cette année avec 23 millions. Donc c'est le système de santé qui ne va pas bien. Et là aujourd'hui, pourquoi les choses sont aggravées ces dernières années? Parce que nous sommes face à des gouvernements qui nous demandent de faire toujours plus avec moins. C'est-à-dire que c'est les plans d'économie, vous savez, le fameux déficit de la sécurité sociale. Mais c'est une escroquerie intellectuelle, ce déficit de la sécurité sociale. C'est la volonté de faire des économies. Donc, on réduit les budgets et on ne prend pas les mesures de réorganisation dont nous avons besoin. Vous voyez, aujourd'hui, on n'inventera pas les médecins qui n'existent pas, mais peut-être faut mieux les répartir sur le territoire. Il faut peut-être avoir les bonnes spécialités au bon endroit. Il faut du personnel et puis il faut arrêter de nous vendre aussi le tout ambulatoire. Vous voyez, le tout ambulatoire, c'est un concept du XXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Au XXIe siècle, les patients que nous devons hospitaliser sont des gens de plus de 50 ans qu'on appelle des pathologies chroniques, des maladies chroniques.
Oui.
Et quand vous avez une maladie chronique, on vous soigne, mais on ne vous guérit pas. Et quand vous venez à l'hôpital parce que votre diabète, votre insuffisance cardiaque, votre insuffisance respiratoire décompense, c'est le terme médical, mais vous avez besoin d'un lit. Et la pénibilité aux urgences aujourd'hui est liée au fait que nous n'avons pas de lit pour hospitaliser les patients. Donc, vous comprenez.
C'est pour ça qu'il y a les gens dans les couloirs, sur des brancards.
On a un flux d'entrée important,
oui,
et on doit s'occuper des patients les plus graves, puisque ceux qu'on doit hospitaliser sont les plus graves. On doit s'en occuper pendant 24, 48 heures parce qu'il n'y a pas de lit. Si on avait des lits, voyez, immédiatement, les services d'urgence fonctionneraient mieux. Ensuite, il y a besoin effectivement de matériel, de locaux, de personnel. Mais déjà, ce qu'on demande, c'est zéro hospitalisation brancard, ce qu'on appelle les hospitalisations brancard, c'est-à-dire qu'on ait des lits. Donc la ministre doit comprendre qu'il faut qu'elle arrête de supprimer des lits. Et puis surtout, il faut qu'on ait une politique d'aménagement du territoire. Parce qu'entre le moment où on a commencé la grève et aujourd'hui, écoutez, en plein été, Sisteron, qui est quand même une ville touristique,
oui,
on ferme,
oui,
les urgences parce que, soi-disant, on ne trouve pas de médecin à 20h30 et les gens doivent aller à Gap à 50 km. Est-ce que c'est raisonnable? Dans mon département, un hôpital, l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois, qui est l'hôpital de référence quand même pour Roissy-Charles-de-Gaulle, vous voyez,
oui,
aujourd'hui est en cessation de paiement, ne peut plus payer ses fournisseurs. Donc c'est catastrophique.
Écoutez, monsieur Prudhomme, on est bien d'accord. Il n'empêche que le problème en amont, c'est que les gens, semble-t-il, les patients, vont aux urgences aujourd'hui, alors qu'il y a 20 ans, pour la même pathologie, ils n'y allaient pas. Ils n'y allaient pas, pourquoi? Pourquoi ils y vont maintenant alors qu'ils n'y allaient pas avant?
Parce qu'ils n'ont plus de médecin traitant.
Mais enfin, c'est quand même extraordinaire. Tout le monde a un médecin traitant, sauf que le gars, le vendredi soir à 18h, il met la clé sous la porte.
Non. Alors là, je vous arrête. Tout le monde n'a pas un médecin traitant. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. J'ai été contacté par une amie, son fils. Jusqu'à présent, elle n'avait pas de médecin traitant, 25 ans. Il cherche un médecin traitant. Elle est en province. Il habite à Chelles. Vous voyez, Chelles, en région parisienne.
Il ne trouve pas de généraliste.
Elle a appelé 17 médecins. Et pourquoi les collègues ont dit « je ne prends plus de patients supplémentaires » Parce qu'ils sont débordés.
Oui.
Il faut savoir aujourd'hui que nous avons d'année en année de moins en moins de médecins généralistes.
Oui.
Donc,
il ne
faut pas jeter la pierre à mes collègues. Aujourd'hui, ils travaillent. C'est pas vrai qu'ils travaillent pas. Moi, je connais énormément de collègues. Ils travaillent jusqu'à 21h, mais il arrive à un moment donné, il n'y a que 24 heures par jour, vous voyez.
Mais donc, avec la fin du numerus clausus, là, c'est-à-dire qu'on va former plus de toubibs, là.
Mais attendez.
Mais ce sera dans 7-8 ans qu'il va sortir.
Ça sera dans 10 ans. Et non, on ne forme pas de plus en plus de toubibs. Vous savez, là, la ministre pouvait prendre une mesure immédiate qu'elle n'a pas prise. Elle vient d'augmenter pour l'an prochain le nombre de postes de 500. On va former à un petit peu moins de 9500 médecins par an.
Oui.
Les générations qui partent à la retraite aujourd'hui sont de plus de 10 000. Ces générations étaient formées il y a 40 ans, quand il y avait 20 millions de personnes en moins en France, et où là, on avait une population qui était plus jeune, donc en meilleure santé. Donc, arrive un moment donné, il faut quand même que les politiques assument leurs responsabilités, parce qu'ils ont fermé le numerus clausus pendant des années.
Oui.
Aujourd'hui, on nous dit on va essayer de mieux répartir le travail entre les médecins et les infirmières. Très bien. Mais quand on demande aux infirmières de se former ce qu'on appelle aux pratiques avancées, c'est-à-dire d'avoir un master 2, bac plus 5, on leur propose une prime de 100 euros avec un salaire d'embauche à 1700. Écoutez, si on a bac plus 5, il est légitime que l'on demande une rémunération équivalente à celle des jeunes qui sortent des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce, soit 35 000 euros brut annuel. Aujourd'hui, quand, mais oui, quand la ministre dit « je ne trouve pas d'infirmière à Metz-Thionville », écoutez, il suffit de faire 20 km quand vous êtes à Metz-Thionville, vous allez au Luxembourg, pour un salaire de 2000, quand vous êtes à, voilà, en milieu de carrière, en 2000 euros à peu près en France, vous avez 4000 ou 5000 au Luxembourg, ou en Allemagne, ou en Suisse, et à Paris.
Et là, il y a des infirmières.
Oui, oui, mais le problème aujourd'hui, c'est que nous avons les infirmières les plus mal payées de tous les pays de l'OCDE. Donc, il y a des problèmes de réorganisation, il y a des problèmes de moyens, et il y a une constante dans ce gouvernement, c'est qu'il faudrait rétablir le dialogue social. Quand la ministre vient sur vos ondes pour dire qu'elle nous reçoit, elle ne nous a jamais reçus. Elle nous a fait recevoir par un directeur adjoint de cabinet qui l'a à annuler les rendez-vous qu'on avait la semaine prochaine parce qu'il vient d'être nommé directeur général du CHU de Bordeaux. Donc il y a un problème de dialogue social.
Monsieur Prud'homme, Madame Buzyn, pour ne pas la citer, il y a quelques jours sur une autre antenne, disait on réfléchit à un numéro de téléphone filtrant. C'est-à-dire, vous imaginez aller aux urgences, vous êtes brûlé avec de l'eau brûlante, etc. Vous appelez le fameux numéro qui reste à créer, et là on vous dit, oui, vous devez aller aux urgences, ou non, vous n'allez pas aux urgences, pour désengorger. Mais c'est
elle invente l'eau chaude. Vous savez, on a le 15, c'est ce que je fais tous les jours.
Il y a déjà plein de numéros, le 15, le 112, le 116, 117.
Mais les gens appellent le 15 aujourd'hui, et on leur donne beaucoup de conseils, et on évite des venues aux urgences. Le problème aujourd'hui, c'est pas de créer un nouveau numéro. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gouvernements successifs n'ont pas fait collaborer deux services publics que sont les SAMU et les pompiers. Vous avez deux numéros d'urgence, le 15 et le 18, et à Paris, là, une des plus grandes métropoles mondiales, quand vous appelez le 15 ou le 18, il n'y a aucune interconnexion informatique. Vous voyez ? C'est-à-dire que quand je prends l'adresse, quand vous appelez au 15 ou au 18 pour un arrêt cardiaque, on prend l'adresse dans un système informatique et ensuite, soit le collègue pompier ou l'assistant de régulation médicale prend son téléphone et redonne par phonie l'adresse qui doit être rentrée dans un autre système informatique avant qu'on fasse partir les secours. C'est ça le problème. La collaboration des services publics avant d'inventer un nouveau numéro. Vous savez, aujourd'hui, avec l'informatique et la téléphonie moderne, que vous appelez le 15 et le 18, si on a le même système informatique, si on est interconnecté, c'est transparent pour la population. Donc, vouloir inventer un nouveau numéro pour filtrer, il existe déjà. C'est le 15, mais alors, vous savez, un numéro, il a fallu dans mon service que l'on mène une grève en décembre l'an dernier parce qu'on avait un numéro et les gens appellent. Mais il n'y avait personne pour répondre.
Il n'y avait personne pour décrocher.
Oui, 4 500 000 appels, disent vos confrères du Point. 4 500 000 appels dans les centres 15 SAMU qui ne sont pas décrochés, faute de personnel.
Une dernière question, M. Prud'homme, et la réponse en 30 secondes. Qu'est-ce qu'il faut que Mme Buzyn annonce demain pour que les urgences arrêtent leur grève perlée ?
C'est pas les urgences, c'est l'hôpital. On demande aux parlementaires de la majorité de dégager un ballon d'oxygène pour l'hôpital en supprimant un impôt injuste qui est prélevé sur l'hôpital, il s'appelle la taxe sur les salaires, c'est 4 milliards d'euros. C'est un impôt qui est prélevé sur l'hôpital, sur nos cotisations sociales. Eh bien, que les députés et les sénateurs de la République En Marche valident cet amendement. Et c'est ce qui permettra effectivement d'avoir ce ballon d'oxygène qui permettra de se réorganiser localement, comme le dit Mme Buzyn. Si ces députés ne le font pas, je peux vous dire, on n'ira pas démonter leur permanence. Hein. La violence, ce n'est pas forcément la bonne solution. Par contre, on imprimera des affiches en disant, voilà, vous n'avez pas voulu donner l'argent à l'hôpital, aux EHPAD, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il y a de la maltraitance dans les EHPAD, il y a des gens qui restent sur des brancards, voire qui meurent sur des brancards, comme ça a été le cas à la Riboisière. Et vous avez une responsabilité, monsieur, madame Intel, le député, qui n'avait pas accédé à la revendication des personnels qui sont en lutte depuis maintenant plusieurs mois, et ce serait bien qu'on nous entende.
Merci beaucoup Christophe Prud'homme, le porte-parole des médecins urgentistes de France sur Europe 1 ce dimanche matin. Bon dimanche à vous, monsieur.
Il est 8h26 et vous pouvez réécouter cette interview sur europe1.fr.